Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture.
Le Dahu vous emmène sur les traces de l'Apis mellifera, l'abeille ouvrière qui produit le miel. Suivons Laurent Guibert, apiculteur, amateur, membre du syndicat Les Amis des Abeilles. Il dit pratiquer une apiculture poétique.
Message 1. Vendredi 24 juin, 9h48.
Oui, Monsieur Guibert, bonsoir. Écoutez, je vous ai laissé un message hier. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par un essaim d'abeilles. Si vous ne répondez pas dans la journée, moi je fais appel à quelqu'un d'autre. Ne me dites pas que vous n'avez pas le numéro de téléphone, car il s'affiche sur votre téléphone. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.
Tu vois, ça, je trouve que c'est des aberrations des gens. Tu vois, tu es à leur disposition, quoi, tu vois.
Ouais.
Et je trouve ça dingue. Parce qu'en en fait, aller chercher un essaim, déjà, c'est pas forcément chose aisée, parce que tu sais jamais comment ça va réagir. Sachant qu'aujourd'hui, maintenant, par exemple, les services des pompiers, ils ne le font plus, ou alors ils le font facturer 150 euros, quoi. Et il y a des apiculteurs qui viennent régulièrement chercher des essaims, ce qui est normal. L'idée, c'est quand même de sauver les abeilles. Mais par contre, moi, je demande jamais rien. Par exemple, moi, je connais des copains ou des gens aux Amis des Abeilles, qui est le syndicat apicole dont je fais partie, ils demandent régulièrement de l'argent pour l'essence, pour le service, que c'est comme un service rendu, tu vois. Moi, des fois, je fais 70 km, t'arrives, le mec qui t'appelle, tu dis, bah écoutez, je sors du boulot, je repars à un autre boulot, je viens demain matin à 9h, donc t'as quasiment pas dormi la nuit, tu fais 35 km, t'arrives, ah bah non, il y a quelqu'un qui est venu hier, ce qui fait que les gars, ils en appellent plusieurs. Par exemple, je te cite un autre exemple, un monsieur qui habite à la sortie de Tours, tu te fais mordre par le chien, bon, ça, à la limite, c'est pas de sa faute. Partant, il te dit, bah monsieur, vous me donnerez 2 kilos de miel, quoi, tu vois. En gros, tu viens chercher un essaim, donc faut que tu me donnes quelque chose. Alors c'est quand même toi, au départ, qui lui rends service. Que des gens réclament du miel, alors que quand tu récupères un essaim, tu sais jamais si la reine sera là, à moins de la voir ou de la chercher. Par exemple, le monsieur qui m'a demandé 2 kilos de miel, son essaim, il n'y avait pas la reine. Du coup, l'essaim est périclité. Mais je trouve que c'est assez symptomatique, tu vois, de notre société. C'est-à-dire que on t'appelle, faut que tu te déplaces, quel que soit ce que tu fais à côté. Et en plus, c'est un service que tu rends, mais c'est presque comme s'il fallait que tu donnes de l'argent maintenant. Je trouve ça dingue, quoi. Enfin, bon. On va s'habiller.
Allez.
Ouais, alors attends, moi je vais mettre même ça. Je t'avoue. Et toi, je vais te donner celle-là, celle qui est intégrale. En fait, une intégrale, c'est la tienne. Donc, c'est la tête, c'est les pieds, c'est les mains.
Là, c'est le cosmonaute.
Voilà.
Oh bah oui, radio partout.
Alors bon, ça s'enfile comme une blouse. Hein. Par contre, enlève peut-être tes chaussures, tu les remettras.
Ah bah oui,
après.
Oui, c'est en toute logique. Hop. Zip.
Ouais, par contre, c'est peut-être un peu grand, mais c'est pas grave.
Oh, bah, c'est pas grave, je ferai un mouralier.
Donc, moi, je vais mettre ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a une faille, elle pique. Mais tu sais, c'est naturellement, elle protège, en fait. Hein.
Ouais.
C'est pas... Donc, elle meurt, parce que la chair humaine est tellement dure que une fois qu'elles ont l'aiguillon planté, quand elles le retirent, ça le déchique l'abdomen. Donc, c'est la mort assurée, contrairement aux guêpes, qui peuvent te piquer plusieurs fois. Et surtout, c'est qu'elle va dégager un phéronome qui va appeler toutes les autres autour. Ce qui fait que là, tu peux avoir... Moi, plusieurs fois, je me suis fait piquer. Une fois, je me suis fait piquer au visage. Alors là, putain, la tête que j'avais, c'est impressionnant. C'est ça pour l'apiculture. Sans enfumoir, tu peux rien faire.
Un enfumoir.
Ouais, en fait, c'est un appareil qui crée de la fumée. Quand tu ouvres une ruche, évidemment, c'est comme si toi, on rentrait dans ton frigidaire et on piquait toute la bouffe, tu vois. Mmh. Donc, il va y avoir des réactions violentes. Et il y a des périodes où les abeilles peuvent être un peu plus agressives que l'autre. Il faut savoir qu'une abeille, c'est absolument pas agressif, sauf à la ruche. Mmh. Quand tu manges dehors, jamais une abeille va venir te tourner autour. Les abeilles en plus ont de la mémoire, donc elles savent qui tu es. Donc elles vont vite te repérer et vont vite comprendre ce que tu vas faire. L'enfumoir, ça va être un leurre en fait. C'est-à-dire que tu vas enfumer le bas de la ruche et le haut de la ruche et les abeilles vont croire qu'il y a le feu. La première chose qu'elles vont faire, c'est se gorger de miel. Du style, il y a un danger, on prend à manger avant de réagir. Du coup, comme elles vont te gorger de miel, elles vont être un peu. C'est comme si toi, par exemple, tu t'enquillais une bouteille de rhum avant d'aller bosser, donc tu risques d'être un peu étourdi. Donc elles vont être étourdies. Et pendant ce temps-là, tu pourras travailler. Le seul souci, c'est que cet état, l'étourdissement, c'est un mot qui est faible, hein, c'est presque comme si elles se droguaient, hein, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont vite comprendre ce qui va se passer. Et donc là, elles vont communiquer entre elles, parce qu'il faut savoir, c'est que Dans une ruche, tout est noir. Hein. C'est-à-dire que tu ne vois rien, les abeilles. Tout ne fonctionne que par contact antenne ou par phéronome. Le fameux langage aussi des abeilles, tu sais, là, découvert par ce monsieur Max von Frisch. Et donc, elles vont vite communiquer qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui est en train de voler le miel. Donc là, on est dans une phase aussi où il y a une belle période ensoleillée, parce qu'il y a des périodes où, par exemple, quand on a eu un printemps pourri, les abeilles peuvent vite mal réagir, dans le sens où le peu qu'elles ont réussi à engranger dans la ruche, il y a quelqu'un qui vient les voler. Il y a des périodes effectivement aussi où il y a de la disette, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à manger à l'extérieur. Toi, tu viens leur piquer leur truc. D'ailleurs, souvent, quand tu ouvres la ruche, moi, j'ai l'impression des fois d'entendre un cri, tu vois. C'est comme si tu avais une personnification de l'animal, quoi. Une abeille va te piquer, donc elle va mourir, mais instinctivement, tous les autres vont venir là où tu as été piqué. Donc la solution, c'est soit effectivement de réagir assez rapidement en mettant un peu de fumée pour faire disparaître ce phéronome, ou soit des fois de refermer. Quand les abeilles sont en colère et que tu sens que ça se passe mal, des fois il vaut mieux refermer, les laisser tranquilles. Alors pour l'enfumoir, il y a différentes techniques. Moi j'utilise une boîte à œufs non colorée, parce qu'il y a quand même des produits chimiques, et des grains de lavande.
Des grains de lavande ?
Ouais, c'est des grains de lavande. C'est-à-dire que c'est pour maintenir une espèce de... une fumée qui ne doit pas être trop chaude, une fumée qui soit assez constante, qui dure un petit peu quand même. Hein. L'idée, c'est d'ouvrir la ruche, mais de pas s'attarder non plus, quoi. C'est-à-dire que même quand tu enlèves une hausse, donc la hausse, c'est la partie que récupère l'apiculteur de miel. Ça prend un petit peu de temps, quand même. Voilà, hop, donc t'allumes.
Donc c'est quoi ? C'est une boîte de conserve qui est reliée à un soufflet ?
Ouais, c'est ça. Donc t'as un soufflet qui va projeter de l'air. Donc là, je mets les grains de lavande par-dessus. Ça, c'est juste pour entamer. Hein. Et surtout, tu mets de l'herbe par-dessus pour que la fumée ne soit pas trop chaude.
De l'herbe ?
Ouais. Donc moi, je mets de l'herbe par-dessus pour que la fumée ne soit pas trop chaude. Aussi, si la fumée est extrêmement chaude, ça va les rendre extrêmement agressives.
Et ça, c'est quoi, cette raclette, là ?
Alors ça, on appelle ça un lève-cadre américain parce qu'il est rouge. Ouais. Donc ça permet de déplacer les cadres. Mais ça, c'est une abeille, c'est l'Apis mellifera.
Alors ça, c'est quoi ? C'est pas de la fausse carotte, ça.
Non, alors, tu vois, alors ça, c'est un cétoine doré. C'est-à-dire que ça, c'est une plante qui est hyper importante parce que c'est extrêmement mellifère. Et c'est ce qu'ils appellent ça l'autoroute des insectes, parce qu'il y a énormément d'insectes qui viennent butiner. Et le problème, c'est qu'à la campagne, bah, souvent, pour que ce soit propre, eh ben, on tombe tout ce qu'on appelle les dépendances vertes. C'est super important, tes dépendances vertes. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que maintenant, en ville, ils les laissent et à la campagne, ils les tondent. Et bien oui, parce qu'il faut que la campagne, il faut que ce soit propre, il faut pas qu'il y ait d'herbes qui dépassent. Alors, tu vois, ici, il y a des orties. Enfin, c'est...
Et ça, c'est quoi, la violet ?
Ah, ça, c'est du buddleia, ça. C'est de l'herbe à papillon. Extrêmement important aussi. Hein. Alors, le problème aussi des ruches, si tu veux, c'est qu'elles sont derrière. Là. Le souci, c'est qu'il ne faut pas être sur leur route, dans le sens où elles ne viendront pas te piquer, bien évidemment, mais par contre, c'est les cheveux. Ah. Dans le sens, c'est sur leur route pour rentrer à la ruche. Donc, ce qui est super ici, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a une haie bon, qui a grandi démesurément grâce aux abeilles, bien évidemment. Et donc, très vite, elle monte très haut. Parce que s'il n'y avait pas ça, bon, elle serait à notre niveau. Puis alors là, moi, plusieurs fois, je les ai eu dans les cheveux, puis une abeille dans les cheveux. Le problème, c'est qu'elle va s'énerver, et puis elle va finir par te mordre. Quoi.
Est-ce que tu peux préciser ? Parce que du coup, tu dis que là, cette haie, c'est grâce aux abeilles. Pourquoi ?
Tu vois bien, par exemple, il y a des pays où en Chine, ils pollinisent à la main. Tu imagines le boulot ? Là, la haie, elle a pris plusieurs centimètres, enfin même plusieurs mètres en peu de temps. Hein. Le rôle des abeilles, c'est effectivement de polliniser et de participer à l'évolution de la plante. Mais il n'y a pas que l'abeille qui pollinise, hein, justement. Je parle des abeilles solitaires qui sont en train de disparaître. Et une des raisons pour lesquelles elles disparaissent, c'est qu'elles subissent la concurrence des abeilles mellifères. C'est ce qui est paradoxal, tu vois. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une ruche, c'est une des conséquences, c'est un des dégâts collatéraux, tu vois. Dans le sens où les abeilles solitaires, qui sont extrêmement importantes, notamment pour les légumineux, notamment pour les tomates, elles subissent la concurrence. Bon, il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Il y a pesticides, tous les produits... D'ailleurs, j'aime bien ce terme maintenant, on dit phytosanitaire, tu vois, on dit plus produits chimiques, ça c'est pas un hasard. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de médicaments de la plante. T'as entendu parler de cette histoire, non ?
Non, pas encore.
Par exemple, les OGM ou les produits dits phytosanitaires, c'est-à-dire que ceux qu'on appelait autrefois sous le nom d'herbicides, insecticides, fongicides, on dit que c'est des médicaments de la plante. Là, les agences de com, elles passent par là. Quoi. Donc nous, on a fait une espèce d'espace naturel, là, tu vois. Où moi je tombe très peu, ou quasiment pas, où là t'as plein de plantes mellifères, je vais t'en faire voir une. Ça, par exemple, ça c'est de la cnotie, tu vois. Ça, c'est des petits, c'est extrêmement mellifère.
Cette petite fleur
violette. Ouais, violette, ouais. Et ça disparaît parce que, effectivement, les prairies, il y en a de moins en moins. Et bah, les monocultures font que bah, les fleurs sauvages, s'il n'y a pas d'espace pour les fleurs sauvages, alors là, la crépie des champs, c'est hyper mellifère aussi. Tu vois, les ombellifères qu'on voit derrière, par exemple, là-bas. Alors, en plus, ça monte jusqu'à 2 mètres.
Alors là, t'as le rythme. On a une exposition qui est sud-sud-est. Hein,
comme ça, ouais. Elles ont très tôt le soleil le matin, ce qui permet de, entre guillemets, les faire travailler, mais le but, c'est pas non plus les exploiter. Il y a un coin un peu ombragé, ils ont un peu le soleil, bon, il y a des points d'eau pas trop loin, donc c'est le bonheur, là.
Il y en a combien, des ruches ?
Là, alors... J'en ai deux qui sont en train de péricliter, parce que moi, je fais pas d'eugénisme, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'apiculteurs qui font de l'eugénisme, tu sais, genre une abeille... enfin. Une reine qui pond pas, qui commence à être trop âgée, on la zigouille pour réintroduire une nouvelle reine. Moi, je fais pas ça. Les reines, jadis, vivaient 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 ans. Là, t'as le corps de ruche, ici, et là, t'as la housse. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le corps de ruche, tu vas avoir trop d'abeilles. En dessous, ici, c'est des ruches qu'on appelle des ruches d'Adam. Et la ruche d'Adam, c'est dedans, il y a 10 cadres. Et au-dessus, on met une housse pour récolter le miel. Donc, il y a un moment où, effectivement... tu vas t'apercevoir que les abeilles commencent à manquer de place, que la colonie s'est bien développée, donc tu vas rajouter la hausse. Et le travail de l'apiculteur, c'est un travail de voleur, en fait. C'est-à-dire qu'il va voler le miel. Alors, moi, j'appelle ça l'apiculture poétique parce que je ne mets pas de grille à reine. Entre la ruche, ici, et la hausse, tu vas mettre une grille. Et comme la reine a un abdomen beaucoup plus long, on ne pourra pas passer. Seulement, les abeilles vont passer et vont stocker du miel. Et moi, je ne mets pas de grille... à Rennes, parce que je trouve ça abominable, j'ai l'impression que c'est un outil de torture, enfin ça c'est mes personnels, donc ça empêche la reine de monter, parce que le souci quand la reine monte dans la hausse, c'est qu'elle pond dans la hausse. Donc moi j'ai de la perte, dans le sens où je vais pas récolter le cadre où il y a de la ponte pour le laisser. Et ça, un apiculteur professionnel fera pas ça, parce que l'idée c'est effectivement de produire du miel et d'avoir un maximum de miel. Donc là je vais te l'ouvrir. Donc là t'as l'espace d'envol, alors tu peux venir, ça fait rien. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est se mettre devant. Donc, tu vois, tu as les abeilles qui rentrent, qui sortent. Donc, tu as des sentinelles hein, qui vont sortir, parce que là, tu vois, il y a une anomalie. Donc, nous, on va enfumer devant. Comme ça. Alors là, ça va sortir un peu. Ça va se dire, qu'est-ce qui se passe? On va attendre un tout petit peu. Donc, on enfume bien. L'idée, effectivement, c'est pas non plus les asphyxier, hein, parce que si je les asphyxie, ça va mal se passer. Donc là, il y en a qui arrivent. Ça, on va voir ce qui se passe. Et après, on ouvre dessus. Alors, au-dessus, donc, t'as le toit, normal. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est pas forcément d'avoir une récolte de miel. C'est pas l'important, c'est le bien-être des abeilles, quoi. Donc ça, ça maintient une température supplémentaire. Donc le couvre-cadre, qui est très important. Donc on l'enlève. Alors des fois, il est propolisé. Hein. Propolisé, c'est-à-dire que les abeilles, elles vont utiliser la propolis, c'est qu'on trouve sur certains arbres, comme du chêne, pour combler tous les trous. Donc là, on est dans la housse, c'est là où elle stocke le miel. Alors ça, tu vois, c'est elle-même qu'on construit, c'est de la cire, et ça veut dire qu'elle commence à manquer de place. Ah. C'est-à-dire que naturellement, elles ont des glandes cirières qu'il faut qu'elles utilisent. C'est pour ça que l'apiculteur, ce qu'on appelle la visite de printemps, c'est-à-dire qu'on rouvre ses ruches après l'hiver, en espérant qu'elles ont passé l'hiver, il va mettre deux cadres de cire neufs qu'elles vont propoliser. Alors là, je sors... Bah tu vois, il n'y a rien, super, je suis content. Là, tu vois, ça c'est le cadre pour récolter le miel, sauf que là, il n'y a rien. Mauvaise surprise. Donc je vais me mettre là, si tu en trouves un autre. Je suis assez étonné. Donc là, en dessous, tu vois, tu as la ruche originelle, si tu te penches. Tu vois. Donc, avec le lève-cadre, tu les déplaces. Donc tu vois, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent tous en train de manger du miel. Parce qu'elles savent qu'il y a un problème... Des fois, c'est un peu dur. Hein. Parce que.
Alors là. T'as plusieurs couches de cadres, en fait.
Voilà. Alors, ça, tu vois, regarde, ça, c'est un cadre où il y a du miel. Ouais. Et comme le miel a été déshumidifié parce qu'il est plein d'eau, donc là, il a été récolté. Donc là, c'est un miel qui ne coule pas. Mais une fois qu'il est complètement déshumidifié, elles mettent cette fine pellicule de cire pour le conserver. Donc souvent, elles commencent par les cadres de milieu, c'est normal, et elles finissent par les cadres de côté. Et tu vois, ça commence un peu à s'énerver. Voilà. Alors, surtout, il faut essayer de leur mettre dans l'ordre. Hein. Des fois, ça peut être très lourd, hein, parce qu'une hausse pleine, ça peut peser entre 30 et 50 kilos. Hein. Tu vois. Donc là, elles ont récolté le miel. Par contre, celui-là, il n'est pas operculé, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas mis encore la cire. Mais comme il ne coule pas, il est déshumidifié. Parce qu'en fait, quand elles récoltent le miel, il est plein d'eau. Donc ce qu'elles font, elles les déshumidifient avec leurs ailes. Enfin, moi, j'aime pas trop les embêter. Hop, oui. Tu refermes ça. On va fermer là. Donc ça, par contre, c'est une larve de faustaigne. Ça, c'est pénible.
C'est quoi, une larve de faustaigne?
Alors, la faustaigne, c'est un papillon nocturne qui vient se nourrir de la cire d'abeille. Alors, des fois, quand t'as la colonie qui est trop faible pour se défendre, la faustaigne pond, les larves vont se nourrir de la cire, du miel qui reste, et après, ça bouffe tous tes cadres. Alors, tu vois, t'as le reste du rucher, là. Donc, tu vois, t'as des ruches où il y a deux housses, ça veut dire que c'est des ruches très, très, très fortes. Et là, celle-là, elle n'a pas de housse. Alors, pourquoi elle n'a pas de housse? Parce que ça a été c'est un essaim que j'ai été récupéré, qu'on met d'abord en ruchette. Je vais devoir avoir une ruchette. Alors, la ruchette, elle est là-bas. C'est une mini-ruche. Quand tu récupères un essaim, bon, souvent, l'essaim, donc, c'est une opération naturelle. Tu sais, t'as la moitié de la ruche qui s'en va. Sachant que dans une ruche, ça va en moyenne de 40 000 à 80 000 habitants. Donc, un essaim, c'est impressionnant. T'as, d'un seul coup, t'as 15 20 000 abeilles qui arrivent. Donc, tu récupères l'essaim. Donc, ça se passe plus ou moins bien en fonction de la température, du lieu où elles se posent. Hein, parce qu'elles peuvent se poser un peu n'importe où. Tu sais, des fois, tu vois des essaims sur des parcs-mètres ou sur des vélos ou sur des voitures. Et après, tu mets ce qu'on s'appelle une ruchette. Sauf que cette ruchette-là, elle n'est pas terrible parce que la ponte se fait mal. C'est-à-dire que soit la reine n'est pas dans l'essaim, et ce qui fait qu'il n'y a pas renouvellement de population, soit la reine est un peu trop vieille, parce que naturellement, la reine quitte la ruche avec la moitié de la population, donc c'est souvent une vieille reine. Et donc, dans la ruche qui a été quittée, va y avoir différentes pontes, différentes cellules royales, et va naître une nouvelle reine. Et des fois, cette vieille reine là, qui a été récupérée, soit tu la récupères pas, ou soit des fois, elle est trop vieille pour pondre, ou soit des fois, malheureusement, dans le transport, il suffit d'une mauvaise manip, et puis tu l'écrases. Et donc là, la ruche devient bourdonneuse, c'est-à-dire que les abeilles n'auront pas été fertilisées, et du coup, ne vont naître que ce qu'on appelle des mâles, des faux bourdons, quoi. Et donc la ruche va péricliter. Je vais te la faire voir.
Donc ça veut dire que la petite ruche, là, tu la poses à côté de l'essaim?
Des fois, ça se passe tout simplement. Hein. Souvent, tu prends une ruchette avec des vieux cadres. Il y a eu une population d'abeilles qui a vécu dedans. Donc ça sent la cire. Des fois, l'idéal, c'est d'avoir une ruchette avec encore un peu de miel. Donc en fonction d'où se posait l'essaim, tu les fais tomber dedans ou tu les mets dedans. Et après, bon, tu fermes et tu emmènes.
D'accord.
Ça peut paraître simple comme ça, mais des fois c'est beaucoup plus compliqué. Pareil, même technique, hein. un peu de fumée devant. Là, ça sort. Alors tu vois ce qui est étrange, donc là t'as la ruche. Donc, pareil, même technique, t'en fumes, tu vois, elle est en train de complètement péricliter celle-là. Est-ce que tu vois, ça, c'est un faux bourdon, c'est un mâle. Ne naissent que des faux bourdons parce que la reine est partie ou est morte ou est trop vieille. Encore quelques abeilles, je te sors un cadre. Là, tu vois, donc au départ, le cadre est de ce qu'on appelle le cidre gaufré, c'est-à-dire de la cigre pure, et ensuite elles vont créer ça, naturellement. Un hexagone parfait, ouais. Ouais, dans lequel elles vont pondre, dans lequel elles vont stocker du miel, elles vont stocker du pollen. Là, regarde, tu vois. Un petit peu fumé. Je vais te faire avoir un vieux cadre.
Comment tu les reconnais, les mâles?
Ben, ils sont plus gros, regarde, c'est des gros pépères. En plus, ils font rien, c'est feignant. Tu vois, ils sont plus longs.
Ah oui.
Ils sont plus longs. Et alors, le mâle, le problème, c'est... Enfin, c'est pas un problème, c'est que là, au mois d'août, il va être éjecté des ruches. Parce que la seule utilité, entre guillemets, le rôle du mâle, c'est de féconder la reine. Et une fois qu'il a fécondé la reine, donc il reste dans la ruche, enfin ceux qui ont réussi à féconder la reine, il y a un cri de la reine, elle va sortir et tous les mâles aux alentours vont lui courir après, hein, et les plus costauds vont réussir à la fertiliser. Donc elle retourne ensuite, dans la ruche où elle va pondre. Bon, alors il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait une certaine température, il faut qu'il fasse plus de 20-25, il faut effectivement qu'il y ait suffisamment de mâles. Et ensuite, bon, les mâles qui vont naître dans la ruche vont être nourris par les abeilles. Et leur seul rôle, c'est de fertiliser la reine. Et donc au mois d'août, comme effectivement les jours vont rallonger, il va y avoir moins de nourriture, ils vont préparer l'hiver, donc les abeilles vont foutre les mâles dehors et vont mourir, parce que le mâle ne se nourrit pas tout seul. Dès que les abeilles sentent que la réserve de nourriture va être moins importante, qu'il va falloir préparer l'hiver, Elle le sait. Alors, donc des fois, tu les vois, elles se mettent à 5 ou 6, elles le tirent par les pattes, elles l'éjectent carrément. Et le mâle, comme c'est un gros balourd, il va pas réussir à rentrer dans la ruche, il va mourir de faim au pied de la ruche. Tout ça pour préparer l'hiver, pour essayer qu'il y ait assez de nourriture pour que la colonie puisse passer l'hiver. Et après, quand la reine va se remettre à pondre, il va y avoir une pondaison de mâles. Tiens, ça, c'est un mâle, ça. Les os, tu peux en mettre jusqu'à 3 ou 4. Hein. Il y a des fois, tu as des ruches qui sont tellement populeuses. C'est-à-dire que tu as une reine qui est tellement fertile qu'une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en pleine période. En pleine période, c'est juin. Hein. Il n'est pas rare de voir des ruchers où tu as une ruche avec 3 os, voire 4 os. Moi, j'ai pas non plus un stock de os très importante, mais les colonies les plus fortes, tu vois, il y a 2 os. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois là, c'est qu'il y a le soleil tôt le matin, mais il y a aussi l'ombre pour la chaleur. Parce que des fois, tu vois les abeilles sortir de la ruche tellement il fait chaud à l'intérieur et elles ventilent. C'est-à-dire qu'avec leurs ailes, elles vont produire un espèce de vent pour rafraîchir la ruche. Par contre, j'ai jamais vu de vol nuptial, mais il paraît que c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu sais, c'est là où la reine va être fécondée donc par les faux bourdons. Il paraît que c'est un spectacle incroyable. Ça se passe à plusieurs mètres de hauteur, centaines, dizaines de mètres de hauteur, mais apparemment tu peux le voir. Voilà. Bon.
Ta-la, la, 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 la. Mourir pour des idées. D'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Ah, attention.
Le temps le permet, bien évidemment, il faut qu'il fasse plus de 15 degrés, tu vas ouvrir ta ruche. Mmh. Elles ont passé 6 mois d'hiver, tu sais pas dans quel état tu vas retrouver ta ruche. Alors des fois, tu ouvres, toutes les abeilles sont mortes, toutes les abeilles sont parties. Donc le travail de l'apiculteur aussi, c'est celui-là au printemps, c'est veiller à l'état sanitaire de la ruche, et puis introduire entre 2 et 3 cadres, alors il y en a qui le font pas quoi, 2 et 3 cadres dans ta ruche pour que les abeilles utilisent leur grande cirière et que ta cire se développe naturellement. Donc là, tu vois, c'était ça. Et là, ils ont commencé à construire. C'est parfait. Et le problème, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, tes cadres, ils sont trop vieux. Donc, alors là, il s'est passé deux choses.
Là, c'est tout noir.
Voilà, c'est tout noir à cause de... Alors ça, c'est ça la fausse teigne. Tu vois, ça se met là-dedans. Et ça bouffe les reliquats de miel et de cire. Et ça, c'est catastrophique. Et après, ça pond dedans. Tu vois, ça fait ça, et ça fait ça après. Donc là, les cadres, la cire est trop vieille, parce que c'est noir, parce que la cire est vieille, et surtout, c'est la pollution qui s'accumule. Donc là-dedans, tu as des résidus de pollution qui peuvent être extrêmement dangereux pour les abeilles. C'est pour ça l'idée de mettre de la cire neuve pour repartir sur des bases saines.
C'est quoi le gros cylindre, là ?
Eh bien, ça, c'est l'extracteur. En fait, tu sais, Donc tu extrais tes cadres de os, tu sais que je t'ai fait voir tout à l'heure qui était plein de miel et de cire. Donc déjà tu désopercules donc avec un couteau. Alors, moi je prends le couteau à pain, c'est ce que je trouve de mieux, mais bon après on est tous différents. Hein. Tu enlèves la cire, là ça c'est de la cire récupérée. Alors certains avec de la cire la revendent pour faire les fameux cadres de cire gaufrés, certains font des bougies, certains font aussi des pains de cire. Il y a des gens, tu sais, avant autrefois les gens ils mangeaient ça, il y en a encore qui en mangent. Les gâteaux de miel en fait ils appellent ça. Alors, même ça se mange encore, hein. C'est-à-dire que bon tu manges le miel et la cire. C'est bon pour les dents, c'est bon pour plein de trucs. Donc une fois que tu as enlevé ta cire, tu mets ta cadre là-dedans. Tu vois, donc là, c'est génial parce que tu as trois en un. Donc tu as l'extracteur. Tu mets tes cadres là, tu vois, tu les positionnes. Ensuite, par la force centrifuge, parce que ça c'est manuel, mais il y en a des électriques. Tu vois, tu fais tourner. Hop. Et par la vitesse, le miel va être projeté sur les parois. Donc ça va descendre. Là, tu as un filtre, donc toutes les impuretés. Alors, les impuretés, ça peut être de la cire, ça peut être un peu de propolis, ça peut être aussi des pattes d'abeilles ou des fois des abeilles aussi que malheureusement tu attrapes avec la hausse. Mais c'est pour ça que moi, quand j'enlève des hausses, j'essaie qu'il y ait un minimum d'abeilles qui soient tuées. Donc le miel coule, va être filtré là, et ensuite tu vas le récupérer là, ce qu'on appelle le maturateur.
D'accord.
Alors, en fonction du...
En bas du tonneau.
Voilà, ouais. Mais là, c'est 3 en 1, parce que des fois, t'as des appareils où t'as juste l'extracteur, t'as pas le filtre et t'as pas le maturateur. Voilà, c'est super, là, t'as 3 en 1. Et après, tu récupères le miel, là. Et en fonction du type de miel, tu le laisses plus ou moins dans le maturateur. Parce qu'en fait, toutes les impuretés vont remonter à la surface. Du coup, tu vas enlever les impuretés et tu vas récolter le miel. Alors, il y a des gens qui refiltrent le miel pour qu'il soit totalement dénué d'impuretés, mais moi, je trouve ça beau qu'il y ait un peu d'impureté dedans. Alors, il y a des miels où tu laisses, par exemple, le miel de printemps, moi, je laisse très peu, je laisse 24 heures parce qu'il va solidifier très vite. Et par exemple, tu vois, le miel de châtaignier, là, moi, j'ai laissé quasiment presque 15 jours, quoi. Après, il ne faut pas se faire avoir non plus. Dans le sens où si tu laisses trop longtemps, s'il se solidifie à cause du sucre qui va se solidifier, c'est une opération naturelle. En Touraine, le seul miel qui reste liquide naturellement, c'est l'acacia. Si tu vois de l'acacia, enfin si tu vois un miel qui est du châtaignier, qui a quelques mois et qui est encore liquide, c'est qu'il aura été manipulé. C'est-à-dire qu'on va le chauffer. Enfin, c'est de la magouille. Il y en a qui magouillent. Pourquoi, comment, j'en sais rien, parce que le miel liquide, ça se vend plus. Donc faut pas se faire avoir. Autrement, si ton miel il solidifie là-dedans, bah du coup tu enlèves tout à la main, quoi. Parce que là, t'as juste à ouvrir. Tu sais, ça fait un peu comme une cannelle de vin, en fait, quoi. Tu ouvres, t'as le miel qui sort, c'est magnifique, quoi. Alors, moi, je fais pot après pot parce que c'est un rituel, quoi. Non, mais tu sais, il y a un côté magique, puis un côté rituel, toi, c'est super beau, quoi. Tu vois, 500 grammes de miel équivaut à 8 millions de fleurs visitées. Visitées, hein, ça veut dire pas forcément butiner, c'est-à-dire que l'abeille, tu te rends compte, 8 millions de fleurs, 10 à 1000, 20 000 voyages d'abeilles, 7000 heures de travail, c'est-à-dire que du moment où elle est butinée jusqu'à un moment où elle est déshumidifiée avec de la cire, et la vie d'une abeille est limitée à 400 voyages, en moyenne. Donc pour faire 500 grammes de miel, il faudra plus d'une centaine d'abeilles. Alors tu vois, un petit pot comme ça, c'est 500 grammes, il y a tout ça là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie le travail qu'il y a derrière. Je parle pas du travail d'apiculteur, là, je parle du travail de l'insecte, de l'abeille. Et bah ça vaut ça, quoi. Donc après, t'as envie de respecter le produit.
Et alors, ces idées-là, elles sont défendues dans le syndicat d'apiculteurs auquel t'appartiens ? C'est une idée que vous avez en commun ou c'est ta façon de penser à toi ?
Ah bah non, mais ça, je pense que c'est tous les gens qui se disent apiculteurs, hein, qu'ils soient professionnels ou amateurs ou plus réactifs, tu vois, dont on dit que t'es plus réactif dès que t'as plus de 10 ruches. Ça va de sens, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois la beauté de l'animal, quand tu vois la fragilité de l'animal, quand tu vois la disparition de l'animal, parce qu'effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, les abeilles qui subissent des agressions chimiques, qui subissent les introductions dues au commerce international, bien évidemment, ça c'est un non-sens, tu vois, l'industrie. Après, dans les amis des abeilles, il y a effectivement des professionnels, mais c'est des gens qui ont une certaine éthique, une certaine façon de voir les choses, qui effectivement, eux, vont produire du miel, mais tout en respectant l'animal, quoi. C'est-à-dire le but, c'est quand même de respecter l'animal. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire d'apiculture sans aimer l'abeille. Et je pense que tous les gens qui sont dans ce syndicat-là, ils aiment les abeilles. Après, il y a ce que je te disais, l'effet pernicieux des médias, où à un moment, il y a eu cette mode où tout le monde veut avoir une ruche dans son jardin. L'abeille, c'est pas un chat, quoi. C'est pas un animal domestique, donc il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire attention, puis il y a les voisins respectés, tu vois.
Et du coup, je crois que c'est tous les ans que vous faites un événement, là, c'est la ruche en fête.
Eh ben ouais, c'est le 10e cette année. Donc la ruche en fête, c'était au départ, c'était montrer le travail de l'apiculteur au plus grand nombre. Donc ça se passe à la Gloriette, donc il y a il y a des ventes de produits liés au miel, hein. Donc il y a du miel bien évidemment, mais il y a aussi des ventes de pollen, il y a des ventes de propolis, il y a des ventes de produits dérivés du miel, c'est-à-dire des bonbons, des sucreries, des bougies, t'as aussi des expos sur le miel, tout ce qui concerne l'apiculture, quoi, ce qui est vachement vaste, quoi.
Et la prochaine, c'est quand alors ?
C'est le 11 septembre.
11 septembre.
D'être facile à retenir.
C'est fait. Donc c'est bientôt.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est bientôt. Non, et puis en plus, l'année sera le 10e, donc c'est un moment sympa, quoi, dans le sens où... Donc effectivement, il y a une vente de miel, mais il n'y a pas que ça, quoi. Par exemple, il y a l'ouverture de ruches en direct par un apiculteur professionnel, c'est Philippe Lebigeot, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, d'admiration. C'est-à-dire qu'il ouvre une ruche en direct. Bon, évidemment, c'est protégé avec une volière. Bon, ça, c'est un sacré travail pédagogique. Il y a de la désoperculation de cire d'abeille, ce que je te disais tout à l'heure, tu sais. Donc il y a des cadres remplis de cire, on découpe avec un couteau. On récupère la cire, ensuite il y a une vente de ce miel désoperculant direct. Mais tu as aussi des expos de ruches, parce que des ruches, je parlais de la ruche d'Adam, il y a la ruche Varée, il y a la ruche Voineau, il y a la ruche Slayens, il y en a plein. Donc cette année, en plus, il y aura des ruches du monde entier, il y aura des miels du monde entier, il y aura un peu d'animation musicale, enfin il va se passer plein de choses, quoi.
D'accord, bon, bah, rendez-vous le 11 septembre.
Voilà. Le 11 septembre.
Merci Laurent.
De rien.
Le Daï vous dit à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture, il y en a pour tous les goûts.